Donc il est décidément beaucoup question de dynamique. Après la dynamique de la révolution et la dynamique contre-révolutionnaire ce matin, aujourd'hui, mieux comprendre ou s'interroger sur la dynamique du capital de, je dirais, d'une crise à l'autre. On avait fait ça de 1929 à 2011 et quelle perspective. Dans cette session, deux intervenants. Donc Marcel Roland, qui est l'auteur en particulier de l'ouvrage que diffuse également Collectif Simonie et qui est en couverture, du moins qui est affiché, c'est pas la peine que je vous présente la couverture. Et donc passera en premier intervenant pour une petite demi-heure. Hein, et sera suivi de François Leclerc, qui anime en particulier la section Actualité de la crise sur le blog de Paul Jorion, dont des livres étaient disponibles, il en reste un sur la table, et également pour une demi-heure, ce qui devrait laisser un temps de discussion largement supérieur de près de deux heures après vous. Donc Marcel, tu commences.
Bien, alors, le sujet de l'exposé qui était prévu, c'est comment comprendre les contradictions et les crises du capitalisme. Je commencerai par quelques mots sur l'interprétation habituelle de la dernière crise. Puis je présenterai les contradictions essentielles du capitalisme, pour revenir ensuite sur l'analyse de la crise et enfin conclure sur ce que l'avenir nous réserve au niveau économique. Alors, comment la crise actuelle est-elle habituellement présentée? Comme en 1929, tout aurait commencé par un crash financier. Et comme en 1929 aussi, le crash se serait transformé en crise économique. Autrement dit, la récession, l'austérité, le chômage, tout cela nous est présenté comme la conséquence de la spéculation financière et de la cupidité de certains. Dès lors, le discours classique, qu'il soit d'ailleurs de droite comme de gauche, voire même d'extrême gauche, consiste à pointer du doigt l'irresponsabilité de la finance et donc la nécessité de la réguler. Tout cela apparaît comme fort logique, puisque les faits semblent le démontrer. Mais parfois, les apparences et les faits peuvent être trompeurs, très trompeurs, surtout les plus évidents. Un seul exemple, classique mais quand même très illustratif. Durant des millénaires, les hommes ont cru que le soleil tournait autour de la Terre, parce que c'est ce qu'ils voyaient devant leurs yeux. Il a fallu un Galilée pour démontrer l'inverse, et encore, ce fut loin d'être évident. À mon sens, il en va de même en économie. Il a fallu un Galilée de l'économie pour montrer que ce n'est pas la spéculation financière qui engendre les crises économiques, mais que c'est exactement l'inverse. Ce sont les contradictions du capitalisme qui engendrent les crashs financiers. Ce Galilée d'économie, ce fut entre autres Marx, et c'est son analyse que je vais tenter de présenter pour comprendre la crise actuelle. Voici sa thèse. Les économistes qui prétendent expliquer les secousses régulières de l'industrie et du commerce par la spéculation, ressemble à l'école désormais morte de la philosophie de la nature qui considérait la fièvre comme la véritable raison de toutes les maladies. La crise éclate d'abord là où sévit la spéculation. C'est ce qu'on voit devant nos yeux. Et ce n'est que plus tard qu'elle gagne la production. Et Marx répond: l'observateur superficiel ne voit pas la cause de la crise dans la surproduction. Telle est donc la crise, la thèse de Marx, et en voici une première illustration pour les États-Unis. Alors, sur ce graphique, vous voyez deux courbes. La courbe en bleu indique l'évolution du taux de profit des entreprises. La courbe en rouge, celle des indices boursiers. Trois choses apparaissent clairement sur ce graphique. Premièrement, le parallélisme d'évolution des deux courbes, ce qui est somme toute logique. Les indices boursiers évoluent en fonction des perspectives de profit des entreprises. À la hausse quand le taux de profit monte et à la baisse quand le taux de profit diminue. Mais on voit aussi que l'évolution de l'économie réelle, c'est-à-dire la courbe du taux de profit en bleu, l'évolution de l'économie réelle précède celle des bourses. Autrement dit, que les bourses réagissent avec un temps de retard à l'évolution du taux de profit. Troisième chose que montre ce graphique, on voit très clairement sur ce graphique que les deux derniers crashs boursiers, celui de 2001 dans le secteur de la nouvelle économie et celui des subprimes en 2007, ont été précédés d'une inversion dans la courbe du taux de profit une à deux années auparavant. Autrement dit, c'est bien l'inversion de dynamique dans l'économie réelle qui explique les crashs financiers et non l'inverse, comme on le présente habituellement. L'amorce d'une récession via une baisse cyclique du taux de profit a bel et bien précédé l'éclatement de la bulle spéculative. Il nous faut donc maintenant aborder cette contradiction dans l'économie réelle que Marx a identifiée. C'est ce que je vais m'efforcer de faire le plus simplement possible et en appuyant sur des exemples. Alors, quelles sont les contradictions essentielles du capitalisme? Pour Marx, il y en a plusieurs. Mais parmi les multiples contradictions du capitalisme, il y en a deux qui pour lui sont essentielles et qui engendrent régulièrement des crises. Je vais me limiter à ces deux contradictions-là. La première, c'est celle que nous venons d'évoquer. Elle se situe au niveau de la rentabilité des entreprises. C'est leur taux de profit. Elle fait référence aux difficultés rencontrées par les entreprises à extraire suffisamment de profit pour un investissement donné. En langage courant, on dit que les investissements sont de moins en moins rentables. En langage un peu plus savant, on parle de rendement décroissant des investissements. Et en langage marxiste, on appelle ça la baisse du taux de profit. En voici une illustration pour les États-Unis. Alors, ce graphique est particulièrement intéressant pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il montre la dynamique cyclique à la hausse et à la baisse du taux de profit. Sur le graphique, l'évolution de ce taux de profit est en bleu. Et vous voyez cette évolution cyclique entre chacune des crises qui correspond aux lignes verticales rouges. Vous avez les traits en bleu qui montent et puis qui descendent. Donc, il montre que cette évolution cyclique du taux de profit, qui est à l'origine du caractère cyclique des crises économiques, ce graphique montre que chaque récession, chaque ligne rouge, a été précédée d'une chute du taux de profit, puis d'une remontée. Troisième chose que montre ce graphique, c'est qu'au-delà des cycles économiques, il montre aussi trois grandes phases. Trois grandes phases qui ont rythmé la vie économique du capitalisme depuis 1945. La première phase correspond à la prospérité d'après-guerre et se caractérise par un taux de profit très élevé. Vous voyez là sur le graphique, les petits bâtonnets bleus sont plus ou moins stables et très élevés, un niveau très élevé. La seconde phase correspond à la chute de ce taux de profit, du milieu des années 60 à 1982. Et c'est cette chute qui marque la fin de la prospérité et la prière. Enfin, la dernière phase se caractérise par une remontée du taux de profit suite au tournant néolibéral au début des années 80. Maintenant, en ce qui concerne la seconde contradiction qui traverse le capitalisme. Seconde contradiction essentielle, hein, ce ne sont pas les seules. Elle se situe au niveau des marchés. Marx constate que régulièrement, le capitalisme ne parvient pas à assurer les débouchés nécessaires à la masse de marchandises qu'il produit. Alors ici aussi, pour Marx, les causes de ce phénomène sont multiples. Mais il y a une cause sur laquelle il insiste beaucoup. C'est la compression de la masse salariale. L'idée est simple. Comme les salaires représentent la part la plus grande de la demande finale, dans les pays développés, cette part représente à peu près les deux tiers ou les trois quarts. Donc, comme les salaires représentent la plus grande partie de la demande finale, sa compression diminue évidemment la capacité du capitalisme à vendre toutes ses marchandises. Plus précisément, Marx explique cette idée comme suit. Une surproduction, il parle là de la cause de la surproduction, une surproduction qui provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité. Que sa consommation n'augmente donc pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail. Donc, la production ici, la surproduction ici pour Marx, résulte très clairement de l'écart entre la productivité du travail et les salaires. Voici l'illustration de cette idée pour les États-Unis et pour la France. Je vais commenter l'évolution pour la France, car elle est la même aux États-Unis. Voici pour les États-Unis. Vous voyez dans un premier temps un parallélisme de la productivité des salaires, et puis un écart, la courbe de productivité qui est au-dessus, s'écarte de la courbe des salaires réels qui est en dessous. Vous avez la même évolution pour la France. En bleu, c'est la productivité, et en rouge, c'est l'évolution des salaires réels. Alors, sur ce graphique, on y voit très clairement, d'une part, le parallélisme des deux courbes durant la prospérité d'après-guerre, et d'autre part, leur divergence à partir des années 80. En quelque sorte, quand les deux courbes sont parallèles, la demande salariale, j'ai bien insisté, c'est la demande la plus importante, deux tiers ou trois quarts. La demande salariale suit la production. Alors qu'ensuite, les deux courbes s'écartent et s'écartent de plus en plus, il y a donc un défaut de demande salariale. Et l'écart montre cet écart de défaut de demande salariale. Évidemment, ce défaut de demande doit être compensé. Mais cette compensation ne peut être complète puisque l'activité économique va se contracter suite à cette compression de la demande salariale. Et que les demandes de substitution, comme l'endettement ou la consommation de luxe, connaissent des limites. C'est pourquoi Marx dira que la raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolue de la société. Les deux contradictions essentielles qui permettent donc d'expliquer pour Marx les crises sont donc d'une part la baisse du taux de profit et d'autre part l'insuffisance de la demande salariale, l'insuffisance des marchés, mais il insiste particulièrement sur l'insuffisance de la demande salariale. Toutes deux, ces deux contradictions, engendrent des crises régulières de surproduction. Mais il faut encore y rajouter une idée essentielle sans laquelle on ne pourrait rien comprendre à ce qui se passe. Cette idée est la suivante. Pour Marx, ces deux contradictions, baisse du taux de profit et insuffisance de marché, peuvent se présenter simultanément, mais aussi séparément. Il exprime cette idée comme suit. En effet, le marché et la production, étant des phénomènes, des facteurs indépendants, l'extension de l'un ne correspond pas forcément, il correspond parfois, ne correspond pas forcément à l'accroissement de l'autre. Deuxième citation, les conditions de l'exploitation directe, donc l'extraction du profit, et celles de sa réalisation, donc les marchés, ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature. On va peut-être revenir sur le pourquoi de cette différence dans la discussion. Je poursuis. C'est en s'appuyant sur cette base théorique, donc sur ces deux contradictions incrémentées de la dernière idée que je viens de développer, c'est en s'appuyant sur cette base théorique que l'on peut maintenant comprendre la crise actuelle et les déstabilisations financières. Nous avons donc vu que c'est la baisse du taux de profit qui met fin à la prospérité d'après-guerre, et que ce taux de profit n'a pu être redressé qu'après le tournant néolibéral au début des années 80. Donc, il y a quatre questions fondamentales qui se posent à ce stade-ci et qui sont les suivantes. Comment le capitalisme a-t-il réussi à redresser son taux de profit? Première question. Deuxième question, puisque ce taux de profit a été redressé, est-ce toujours le taux de profit qui explique la crise? Troisième question, pourquoi la croissance ne redémarre-t-elle pas, puisque les profits ont été redressés? Quatrième question, pourquoi la crise perdure, malgré ce redressement du taux de profit, et pourquoi assiste-t-on à une instabilité financière croissante? Alors, la réponse à la première question, donc la question « Comment le capitalisme est-il parvenu à redresser son taux de profit ?» La réponse à la première question est assez évidente. Ce redressement a été obtenu soit suite à la compression de la part salariale. En voici une illustration spectaculaire pour les principaux pays développés, ici les États-Unis, l'Europe et le Japon. La part salariale qui était stable et qui s'est même légèrement élevée à la fin des années 70, la part salariale était en moyenne de 72-73%, et elle a chuté dans l'ensemble des pays développés d'à peu près 10 points. Donc c'est un transfert massif des salaires vers les profits, à peu près de 10 points, puisqu'on est passé là à peu près de 73-63% du total de la valeur produite. Ceci implique deux choses importantes. Premièrement, contrairement aux années 70, et même si les récessions sont toujours initiées par un retournement conjoncturel à la baisse du taux de profit, on l'a vu sur le premier graphique, donc les récessions sont toujours causées par le caractère cyclique du taux de profit. Donc même si les récessions sont toujours initiées par un retournement conjoncturel à la baisse du taux de profit, la raison profonde des crises depuis les années 80 ne sont plus la conséquence d'une trop faible profitabilité des entreprises. Depuis les années 80, le capitalisme évolue dans un contexte global de profit croissant. C'est un gros changement. Deuxième impression qui change suite à ce tournant néolibéral au début des années 80, c'est que comme le taux de profit a été redressé essentiellement en comprimant la part salariale, je dis bien essentiellement, c'est pas le seul facteur, mais essentiellement en comprimant la part salariale, c'est évidemment depuis lors la demande finale qui est en berne. Et donc ceci est une réponse à la seconde question. Le problème essentiel rencontré par le capitalisme depuis les années 80 n'est plus tant une insuffisance globale de rentabilité des entreprises, celle-là elle est assurée, mais un manque de dynamisme dans ses débouchés. Enfin, il faut répondre aux troisième et quatrième questions. Et pour répondre aux troisième et quatrième questions, il faut examiner les autres conséquences de cette inversion dans ce contexte économique global qui a eu lieu au début des années 80. En effet, cette compression de la demande salariale depuis les années 80 a eu quatre conséquences majeures. La première conséquence, c'est un affaiblissement significatif de la demande finale se traduisant par des phénomènes de surcapacité. En voici un exemple pris dans un secteur économique important. C'est la vente des voitures aux États-Unis. La première courbe, celle qui est en gras et qui monte très fortement, c'est la courbe des capacités de production. La courbe qui fluctue plus léger, c'est la courbe des ventes. Et on voit vraiment cette divergence apparaître à partir des années 80. L'on voit bien ici que les phénomènes massifs de surproduction apparaissent à partir des années 80 et non pas avant. Ce phénomène n'est pas d'ailleurs propre à ce secteur, mais il est quasi généralisé dans l'ensemble de l'économie. Ainsi, on assiste à une réduction progressive du taux d'utilisation des capacités de production au sein des entreprises. La seconde conséquence consiste en un ralentissement des investissements suite à cette compression de la demande salariale. Voici un graphique qui l'illustre. Le taux de marge, c'est une autre expression du taux de profit. Vous voyez qu'il augmente à partir des années 80. Alors ce graphique est important à comprendre, car il montre que, malgré des profits redressés, les entreprises ne réinvestissent pas. Et ils ne réinvestissent pas parce que c'est la demande finale qui est comprimée. Parce que ce sont les marchés solvables qui manquent. Ceci montre aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas d'automaticité entre la profitabilité des entreprises et la croissance économique. Ce qui d'ailleurs répond très immédiatement au proverbe qui a été cité ce matin, d'Helmut Schmidt, hein, les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Les profits d'aujourd'hui, ils sont là, vous les voyez, mais il n'y a pas eu d'investissement et il n'y a pas eu d'emploi. Ceci constitue donc une réponse à la troisième question. Pourquoi la croissance ne redémarre pas puisque les profits sont élevés? En clair, la croissance ne redémarre pas parce que la demande est insuffisante. Troisième conséquence. Un endettement croissant des ménages. Un endettement croissant des ménages, évidemment, pour compenser la perte de pouvoir d'achat suite aux compressions de la part salariale. Vous voyez ici, associer les deux courbes. compression de la part salariale et au même moment, explosion de l'endettement des ménages. Et donc, quatrième étape, nous pouvons comprendre l'origine du gonflement de la sphère financière et répondre à la quatrième question. Je rappelle, pourquoi assiste-t-on à une instabilité financière croissante? En effet, si à partir des années 80, le capitalisme évolue dans un contexte de croissant, par contre, ses profits, comme on l'a vu, ne sont pas réinvestis, et ce sont ces masses de capitaux non réinvestis qui vont alimenter la sphère financière, comme le montre très bien le graphique suivant. Ce graphique montre le phénomène de ciseau entre le profit et les investissements. C'est ce ciseau entre des profits croissants, c'est la courbe en bleu, et des investissements en berne, c'est la courbe en brun, qui génère une masse de capitaux libres, illustrée par Lambert, une masse de capitaux libres qui vont se placer dans la sphère financière. À nouveau ici, l'analyse marxiste replace les choses sur leur tête. Ce sont les évolutions dans l'économie réelle qui expliquent le développement de la finance et non l'inverse. Ce n'est pas la méchante finance qui vient parasiter et perturber un capitalisme sain. Cette montée de la finance est massive aujourd'hui et en voici un premier exemple. C'est l'évolution de la part du secteur financier dans l'économie aux États-Unis. Ce secteur financier était faible au 19e siècle. Il a monté vers la fin du 19e siècle et a connu une pointe avec la crise de 1929. Puis il s'est relativement stabilisé pendant la période des Trente Glorieuses et il connaît une massive accélération à double mois. Puisqu'on passe de 4% à 8%, une accélération très nette à partir de 1980. Il y a un deuxième exemple qui illustre cette montée de la sphère financière. C'est l'énorme mutation du métier bancaire depuis les années 80. Alors qu'avant, les banques s'occupaient encore de leur métier de base, à savoir récolter l'épargne et satisfaire aux demandes d'emprunt. Depuis le tournant néolibéral, cette activité est devenue minoritaire au profit d'opérations spéculatives, comme le montre le graphique de la structure du bilan des établissements de crédit. Quand vous regardez bien ce graphique, encore dans les années 80, entre 1980 et 85, vous constatez que dans la structure du bilan des établissements de crédit, la clientèle, donc la récolte de l'épargne et la satisfaction des emprunts, la part de la clientèle est de 70%. L'activité sur les titres, l'activité interbancaire et les activités diverses sont extrêmement minoritaires. Et en bout de parcours, en 2008, l'activité traditionnelle des banques, sur base de la clientèle, la récolte de l'épargne et la distribution des emprunts, est devenue extrêmement minoritaire. Ce sont toutes les activités spéculatives qui ont pris le dessus. C'est ce nouveau contexte économique, ouvert par les années 80, qui explique la multiplication des crises financières, alors que ces crises financières avaient disparu depuis la crise de 1929, comme le montre le graphique suivant de l'évolution du produit mondial et des crises financières. En fait, en 1929, vous le voyez par les lignes verticales en grisé, c'est la dernière grande crise financière. Depuis lors, elles ont disparu et elles ont réapparu justement à partir des années 80. C'est lié aussi, c'est vrai, à une mesure politique. Après la crise de 1929 et suite au New Deal, il y a une prise de décision politique importante qui a consisté à séparer les banques d'épargne des banques d'affaires. Avec le tournant néolibéral, cette séparation entre les banques d'épargne et les banques d'affaires a été levée et les institutions financières ont pu remélanger les deux. En gros, sans rentrer dans les détails, les banques ont pu aller puiser dans l'épargne pour faire des opérations spéculatives, ce qui était interdit depuis le New Deal. Et demain, que nous réserve l'avenir au niveau économique? À paramètres inchangés, je souligne bien à paramètres inchangés. Le capitalisme dans les pays développés va dans le mur. Comme l'indique très clairement l'évolution du taux de croissance dans ces pays. C'est assez spectaculaire. Depuis les années de prospérité de l'après-guerre, où le taux de croissance du PIB de pays à haut revenu oscillait entre 5 et 6%, ce taux de croissance ne fait que décliner progressivement. Et quand on regarde le taux de croissance dans les années 2000, on a rejoint le taux de croissance moyen de l'entre-deux-guerres, ce qui n'est pas peu dire. Une telle dépression d'activité ne peut mener qu'à l'exacerbation de toutes les difficultés. Un accroissement du chômage, des crises, de l'austérité et de la misère, mais aussi, comme nous le voyons un peu partout dans le monde, des résistances sociales à cette dégradation qui se font de plus en plus lourds. Cependant, pour être tout à fait objectif, cette prévision d'un capitalisme qui va dans le mur, n'est pertinente, premièrement, qu'à paramètre constant et pour les pays développés. En effet, force est de reconnaître que la dynamique économique et pour le moment, je souligne bien pour le moment, que la dynamique économique est très différente dans les pays émergents comme le montrent les deux graphiques suivants. Le graphique de la croissance de la production industrielle, où vous voyez là en bleu clair la quasi-stagnation de la production manufacturière dans les pays développés, États-Unis, Europe, Japon, la croissance notable dans les pays émergents et en particulier de la Chine où cette croissance manufacturière a quasiment triplé en 8 ans. C'est phénoménal. En 8 années de 2002, en 2010, il y a eu quasiment un triplement de la production manufacturière. Et enfin, le deuxième graphique de cette dynamique dans les pays émergents, c'est le nombre d'emplois dans le secteur secondaire, donc essentiellement le secteur industriel. C'est aussi tout à fait spectaculaire, et ça a des implications au niveau de la lutte de classe. Il y a en Chine, à l'heure actuelle, plus d'ouvriers dans la production manufacturière que dans l'ensemble des pays de l'OCDE. À mon sens, nous assistons, on a déjà assisté et on continue à assister à un basculement réel du monde vers les pays émergents, comme le démontre et comme l'indique encore le graphique suivant. Graphique de la croissance du PIB par habitant, cette fois-ci PIB ramené aux habitants, dans les anciens pays développés et dans le reste du monde. Si cette croissance a connu des évolutions différentes dans ces deux parties du monde, néanmoins, avant la fin des années 90, on voyait un parallélisme entre ces deux croissances. à la hausse ou à la baisse, mais un parallélisme. À partir de la fin des années 90, on voit une réelle divergence et une divergence tout à fait spectaculaire. Toute la question est donc de savoir si cette dynamique sera assez forte pour prendre le relais de la dépression chez nous, ce qui, je le souligne, est très loin d'être le cas à l'heure actuelle, mais cela devrait évidemment faire l'objet d'un exposé et on y reviendra très sûrement dans la discussion. Mais vous trouverez toutes les explications, je termine par une petite pub, dans le dernier ouvrage que j'ai publié. Il est court, écrit très simplement, je l'espère comme en exposé, d'un prix modique et disponible ici même. Merci pour votre attention.